Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Avancer dans la vie avec le sentiment de buter, de ne pas progresser, avoir l'impression d'échouer là où les autres réussissent, c'est glisser vers le repli, l'isolement, alors que l'on voudrait au contraire respirer et changer d'air. Ce malaise général peut se traduire aussi par des troubles physiques, des douleurs, des tensions. Ces perturbations qui affectent l'humeur et le sommeil méritent parfois de regarder en arrière, de s'interroger sur ces années de construction, sur les souvenirs d'une enfance plus ou moins déjà lointaine. D'après l'OMS, un quart de la population a souffert de maltraitance au cours de l'enfance. Victimisation infantile, un terme qui englobe des réalités très diverses, des sévices aux négligences, des brutalités aux absences, que l'on en soit victime ou même témoin. Comment ces épreuves ont-elles façonné, renforcé ou abîmé la construction de l'individu? Quel est le degré de conscience de cet impact et comment agir pour se débarrasser de ce fardeau, se déconditionner de son passé pour ne plus subir? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et c'est le titre de votre livre, docteur Stéphanie Ahusseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute à Paris. Comment ne plus subir, ouvrage publié aux éditions Odile Jacob. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne de Dakar au Sénégal, Oumou Kane, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fan, donc de Dakar. Et en fin d'émission, vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue, pour répondre à des questions d'auditeurs. Questions, messages sur la page Facebook de Priorité Santé et bien sûr notre numéro, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Alors pour comprendre cette problématique, votre approche, docteur Stéphanie Ahusseau, on peut reprendre le titre de votre l'introduction de votre livre, « Je souffre et pourtant je n'ai aucune raison d'être malheureuse ». Alors, tout est derrière ce « pourtant », on a l'impression que tout va bien, vous proposez d'explorer le passé. Est-ce que ce n'est pas une confrontation qui risque davantage de faire souffrir ?
Initialement, oui. Dans le, en fait, les stratégies pour se sortir un petit peu de souffrance récurrente, c'est d'y plonger à court terme. À l'inverse de souvent le mécanisme d'action des médicaments, où on va plutôt abraser le court terme, l'atténuer, et avec malheureusement des résultats moyens et à long terme moins sans véritable changement durable. Donc effectivement, revenir sur son passé, pas seulement en intellectualisant les choses, mais en revivant en profondeur certains événements plus ou moins perçus comme difficiles. Le but, c'est vraiment presque de créer des crises de larmes, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et de retrouver une forme de compassion pour soi-même via la visite avec son cerveau d'adulte de l'enfance, et du coup de réharmoniser son cheminement dans la vie.
J'utiliserai l'image d'une casserole avec de l'eau qui bout. Au début, on ouvre le couvercle, il y a la vapeur qui nous saute à la figure, et puis après, ça va mieux.
Tout à fait, avec l'idée aussi que c'est vraiment un saut dans le vide en fait, c'est sauter à l'élastique, et si des mécanismes un petit peu de protection, de défense qu'on appelle de dissociation sont mis en place, c'est parce que l'expérience à revivre va être très douloureuse. Et je pense qu'il faut être honnête, il faut pas se leurrer sur l'idée que faire ce travail, c'est touchant, mais c'est aussi ce qu'on cherche, c'est se reconnecter à cette souffrance profonde.
Alors savoir justement quand se lancer dans ce travail, cette fameuse sensation de subir, comment est-ce qu'elle se manifeste, docteur Stéphanie Ahusseau ? Quel type de situation ?
Plein de manifestations différentes, ça peut être donc dans les différents domaines de la vie, par exemple, ça peut être la récurrence d'histoires amoureuses malheureuses, ça peut être une espèce d'épuisement au travail, avec le sentiment de pas être à sa place, de pas être reconnu, des burn-out, du harcèlement, etc. Ça peut être un épuisement face à ses enfants. Ça peut être des manifestations de santé plus globale, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des prises ou pertes de poids. Ça peut être des manifestations de santé type baisse de l'immunité qui vont se traduire par une récurrence, par exemple, d'infections urinaires et qu'on trouve avec bien plus de fréquence chez les personnes ayant subi des abus sexuels, par exemple. Tout peut être touché. En fait, les expériences de l'enfance précoce touchent l'axe du stress et les branches du système nerveux distribuent tout le corps, distribuent la sphère génito-urinaire, distribuent le côlon, le cœur, les poumons. Donc, tout peut se voir.
Avec vraiment une expression physique, hein, c'est ce que vous montrez dans ce livre, docteur Stéphanie Ahusseau, des traumatismes qui ont directement, par exemple, dans la petite enfance, des répercussions sur le développement cérébral. Et ça s'observe à l'imagerie.
Oui, tout à fait, c'est objectivé. Oui, il y a une diminution de l'activation du cortex préfrontal, il y a une augmentation de l'activation du centre de la peur, qui est le centre, là où ce qu'on appelle l'amygdale. Voilà, il y a un ensemble de manifestations qui sont repérables sur l'imagerie cérébrale.
Tout à l'heure, vous citiez justement les relations amoureuses. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un miroir? Est-ce que, dans une certaine mesure, docteur Ahusseau, la qualité de la relation amoureuse, eh bien, c'est le reflet de certaines carences, de certaines blessures, et puis aussi, des fois, d'un certain bonheur passé?
Tout à fait. Les gens qui ont bénéficié de sécurité affective dans l'enfance, qui ont été tenus, choyés, qui ont senti qu'on les prenait dans les bras, qu'on leur manifestait de la tendresse. Et ça paraît un petit peu stupide, mais c'est crucial ces premiers mois-là dans le développement ensuite affectif de l'enfant. Ont ensuite des vies amoureuses qui sont beaucoup plus fluides que des gens qui ont eu des parents un peu imprévisibles au niveau affectif ou carrément durs et rejetants ou tellement envahissants qu'ils ont créé une sorte d'étouffement chez l'enfant. Donc les relations amoureuses actuelles sont une sorte de théâtre de répétition des relations d'attachement avec son parent.
Alors dans quelques instants, on va prendre des auditeurs en ligne, mais tout à l'heure j'ai cité très brièvement l'introduction de votre texte en utilisant l'adjectif malheureuse. Votre livre, c'est rare, c'est exceptionnel, et bien il est complètement au féminin. C'est un parti pris que vous expliquez, docteur Ahusseau. Lorsque la douleur se fait sentir, le repli s'accentue, la dépression se manifeste. Vous dites d'abord, ce sont d'abord des femmes qui l'expriment, et puis ce sont des femmes aussi qui le subissent. Donc un livre au féminin, pourquoi ?
Alors, de manière très triviale, 80% du lectorat des livres de psychologie sont des femmes, et je trouvais plus renforçateur de valoriser les femmes qui se responsabilisent de leurs émotions, sachant que les hommes peuvent tout à fait lire le livre, parce que loin de moi l'idée de dire que les hommes n'ont pas subi de maltraitance infantile. En revanche, voilà, ils peuvent faire ce petit exercice qu'on fait depuis la nuit des temps, qui est de transformer l'orthographe. Ensuite, effectivement, pour l'instant, on crée une sorte d'amalgame entre le féminin et les émotions. C'est-à-dire que on a tendance à considérer que les femmes sont émotionnelles, que les hommes sont rationnels, et qu'en gros, toute la charge, la responsabilité des émotions est choix aux femmes. Et les émotions, tout le monde en a, les hommes comme les femmes, sauf que les femmes sont plus peut-être culturellement incitées à les repérer, à s'en occuper, à s'en responsabiliser. Et souvent, elles sont plus en avance par rapport à ça. Voilà. Et elles ont tendance, malheureusement, quand elles ont subi des choses difficiles dans l'enfance, à retourner les choses contre elles, alors que la tendance des hommes, c'est plutôt être hétéro-agressif, c'est-à-dire à retourner la charge émotionnelle vers l'extérieur. Souvent, les hommes font moins de travail sur eux que les femmes, consultent moins, ne s'intéressent pas à la psychologie. D'ailleurs, le mot est souvent prononcé avec une espèce de petite moue méprisante ou condescendante. C'est en train de changer, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus.
Alors, votre livre, justement, il propose de faire un travail sur soi. Il y a des pistes, il y a de la compréhension, mais il y a aussi des exercices. Alors moi, je me suis posé une question, docteur Ahusseau. Quand on est tout seul, quand on se lance dans cette entreprise, notamment en mettant noir sur blanc ce qu'on a vécu, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, on risque pas de se mettre en danger? Que tout ça, en fait, en quelque sorte, je vais être trivial, nous explose à la figure.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut le faire avec l'idée que on va aller très mal, avec l'idée que le but est de pleurer sur soi, en sachant, en ayant bien en tête que une émotion, une tristesse, un désespoir qui est accueilli, qui est accepté, c'est une émotion qui, si on la laisse aller, si on qui va durer en moyenne une heure. Il faut avoir cette idée-là en tête, mais il faut avoir l'idée que on va aller dans des intensités assez hautes. Donc oui, il faut pas commencer ce travail en se disant que immédiatement on va sentir on va sentir du mieux-être.
Alors, on va donner tout de suite la parole aux auditrices et aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ses auditeurs, il est en ligne de la République démocratique du Congo, de Mbujimayi, c'est Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute Eric.
Oui, quand on était encore petit, moi et mon frère, on menait une vie paisible et normale en famille, avec nos parents, jusqu'à ce que les choses ont changé. C'est arrivé quand ils ont divorcé. Maman est allée de son côté, mon père est resté se remarier. Et c'est là que nous avons passé notre vie d'enfance à vivre l'enfer. Imaginez vivre sans notre maman qui savait mieux s'occuper de nous. Et nous vivons avec notre belle-mère qui nous maltraitait, qui nous privait de la nourriture, qui nous insultait. Et qui nous, elle nous a fait subir beaucoup de choses et autres choses que je ne peux pas vous en citer. Mais c'est qu'en grandissant, j'ai développé en moi un sentiment du dégoût vis-à-vis du mariage. Et je n'ai même pas entendre parler de ces mots. Parce que je crains que je risque de vivre la même situation. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à effacer ça dans ma tête. Et ça m'empêche de me concentrer aux autres choses. Vous dites, par exemple, je décourage même mes amis, mes camarades, de pouvoir se marier parce qu'ils risquent de vivre aussi la même situation. Je commence à avoir l'impression.
Oui. Eric, est-ce que vous en parliez avec votre frère de ce qui vous arrivait?
Oui, je parle avec mon frère, mais je ne connais pas son père pour voir s'il partage le même avis que moi.
Il pense la même chose que vous? Il en a eu les mêmes blessures ou c'est différent?
C'est différent. Je ne sais pas, je ne saurais pas connaître ce qu'il y a dans son cœur. Mais des fois, il a aussi des remords par rapport à ce que j'étais passé dans le passé. Mais moi, j'ai comme impression que c'est une maladie. Alors ce que j'aimerais que vous puissiez m'aider, c'est comment est-ce que je peux faire pour effacer ça dans ma tête et ainsi retrouver le goût de vivre.
Docteur Stéphanie Ahusseau, une telle expérience, est-ce qu'on peut l'effacer comme le voudrait Eric?
Non, on peut pas l'effacer. En revanche, donc oui, je trouve émouvant et touchant le témoignage d'Eric. L'idée, c'est de se re-raconter l'histoire. Non, on peut pas effacer les choses. On peut les digérer, mais il faut revenir dessus. Or, toute la société, la famille nous incite, effectivement, le mot c'est aller de l'avant. Sauf que quand on a un boulet qui pèse des tonnes derrière soi, on peut pas aller de l'avant. C'est de revisiter son histoire, par exemple en l'écrivant, ou en se la racontant, en essayant d'imaginer qu'un enfant qu'on aime beaucoup, qui nous touche, que ce soit un enfant qu'on a vu dans un film, ou son propre enfant, ou un petit neveu, peu importe, revit toutes ces histoires, ces moments qu'on a vécu, de manière à voir avec beaucoup plus de compassion ce qu'on a vécu sans le banaliser. Parce qu'en fait, ce qui crée le traumatisme et les séquelles, c'est souvent pas tant la quantité de traumatisme, même si ça, évidemment ça joue, que la manière dont ça a été accueilli au moment de la révélation. Or là, dans ce que raconte Eric, il n'y a eu aucune écoute, il y a une sorte d'indifférence à cette maltraitance, à cette violence, et les petits garçons, là, lui et son frère, se sont retrouvés visiblement tout seuls à essayer de digérer quelque chose qui a dû les amener à penser que soit ils méritaient, soit qu'ils avaient fait quelque chose de mal, parce que c'est comme ça que résonne un enfant qui subit de l'adversité. il se pense à l'origine de ce qu'il reçoit, et donc de revisiter ça avec son cerveau d'adulte en essayant de voir ce que ça a eu de tragique, de douloureux, d'injuste, de carencé. Et en essayant, alors parfois c'est un petit peu imaginaire, mais de penser à une figure, ça peut même être une figure spirituelle, mais qui serait accueillante, qui donnerait du temps, qui prendrait dans les bras, qui engueulerait la belle-mère, qui voilà.
Faire de manière, sa fiction réparatrice.
Voilà, mais en étant vraiment dans l'émotion, pas de manière intellectuelle, froide, détachée. Faut d'abord vraiment passer dans ce tunnel où on ressent combien ça a été dur et tragique et difficile.
Mais Eric fait le lien, parce que dans votre livre, vous parlez de pas mal d'expériences enfouies, on va dire refoulées. Là, il a conscience que c'est la catastrophe de son enfance qui provoque aujourd'hui son rejet du mariage. Il a envie de changer par rapport à ça, on le comprend, il a 20 ans, il a envie d'avoir sa vie, d'arrêter de dire à ses amis, non, ne t'engage pas. Peut-être que le regard sur soi, c'est une chose, mais en parler à des amis, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut aider ou pas? Ça peut être délicat.
Ça dépend des amis. Et ce qu'on a tendance à faire quand soi-même on n'a pas vraiment de compassion pour soi, c'est on a tendance à aller chercher des amis qui vont avoir en quelque sorte le même rapport à soi qu'on a nous-mêmes.
C'est-à-dire, qui risque d'être sévère.
Voilà. Et souvent on l'induit parce que soi-même on dit les choses de manière un peu détachée, un peu coupée de soi. On veut pas se laisser aller à pleurer parce que on nous a rabattu que et voilà il fallait aller d'avant, qu'on se regardait le nombril, blablabla. Et du coup on a eu jusque-là tendance à choisir des amis qui nous renvoient ça. Donc, l'idéal, c'est un thérapeute, mais pareil, il faut le trouver.
Un Bougie-Maillard DC, c'est compliqué aussi.
Voilà. Vraiment, moi, le livre, je l'ai voulu le faire de manière à ce qu'on puisse travailler tout seul. J'ai vraiment transmis tout ce que je faisais en thérapie pour qu'il n'y ait pas un moment de la thérapie qui soit passé sous silence, en espérant qu'on puisse le réapproprier quand on ne peut pas avoir de psy. Mais voilà, trouver des moyens, des gens qui vont amener de la bienveillance, ça c'est indispensable.
Eric, trouver une oreille ou prendre un cahier, inscrire des choses qui vous sont arrivées, essayer de regarder ça avec un petit peu de distance, vous pensez que
non,
c'est...
Non, pas de distance, de compassion.
De compassion, ouais. De compréhension même par rapport à soi.
Voilà, de se dire... Au lieu de
pas
dire,
d'indulgence, mais...
Au lieu de dire c'est pas grave, à la limite de se dire qu'est-ce que ça a été dur pour ce petit garçon. Vraiment de le formaliser en se plaignant à soi-même, quoi, de manière à pleurer en quelque sorte. C'est sur soi, en étant gentil avec soi.
Reléguer cette histoire dans le passé, mais sans la nier.
Elle se relèguera. En fait, le fait, elle se relèguera, c'est un résultat. C'est pas un processus. Et du coup, ça viendra, mais en fait, il faut d'abord plonger dedans pour que ça se fasse de soi-même.
Eric, est-ce que vous imagineriez, par exemple, prendre un bout de papier, inscrire comme ça des choses qui vous sont arrivées dessus pour essayer de regarder tout ça avec, gentillesse pour ce petit garçon que vous étiez et qui a subi des choses très difficiles?
Mais ça, je n'ai pas encore essayé, mais je crois que je vais faire un effort de mettre les conseils des docteurs en pratique.
Très bien, bon, on vous souhaite une excellente journée, Eric Mbougimaï.
Bon courage.
Et on va rester en RDC, hein, puisqu'on va entrer en contact tout de suite avec Serge. Serge qui est en ligne de Kinshasa. Bonjour Serge.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On vous écoute Serge.
Oui, moi mon problème c'est de trouver des astuces pour avoir plus de confiance en moi-même. Les difficultés que je rencontre c'est lié à la dépression. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai développé une dépression. La dépression est arrivée suite à un choc. Mon frère aîné souffrait de maladie mentale. Depuis tout ce temps, je ne l'avais jamais côtoyé. La première fois que je l'ai vu, il m'avait agressé lors de cette crise de folie. Voilà. Depuis tout ce temps, j'ai connu aussi des difficultés à l'université, des échecs. J'ai changé de faculté plus de 3 fois. Et maintenant, je suis en dernière année de premier cycle. J'ai du mal à retrouver confiance en moi-même, à aller de l'avant, à oublier les sentiments d'échec que je traîne depuis ce temps-là. Est-ce que je peux avoir plus d'astuces? Comment je peux faire pour surmonter tous ces échecs pour aller de l'avant et puis entreprendre par exemple des relations amoureuses qui réussissent? Parce que lorsque j'entreprends une relation amoureuse, par exemple, je traîne ce sentiment d'échec, j'ai moins de confiance en moi-même, c'est ce qui fait que ça ne réussit toujours pas. Mes relations amoureuses durent 2 ou 3 mois et puis ça tourne en catastrophe.
Avant de donner la parole au docteur Stéphane Yahusso, j'aurais une question à vous poser, Serge. Lorsque vous dites votre frère vous a agressé, quelle a été la réaction de votre famille? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'on vous a dit à un moment donné, ce n'est pas bien ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, on essayait un peu de me rationaliser parce qu'il était malade, il n'était pas conscient, ce n'était pas une agression délibérée, c'est lors de ces crises. En tout cas, c'était un sentiment refoulé, je n'avais pas parlé de ça, de la façon dont j'avais vécu ça, je n'avais pas parlé de ça. Ce qui fait qu'après un mois, j'ai commencé à souffrir de dépression.
Vous leur avez caché l'information? Vous n'avez pas dit à vos parents que vous aviez été agressé?
Si, si, c'était fait au vu aussi de tout le monde.
Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils ne vous avaient pas protégé à ce moment-là?
Effectivement, parce que c'est un grand frère que j'aime beaucoup et nous avons évolué ensemble lors de notre jeunesse. Donc c'était une situation difficile pour moi.
Docteur Stéphane Yahusso.
Oui, ce qui serait peut-être intéressant d'explorer, c'est ce qui s'est passé avant 20 ans, avant cette agression. Parce que là, visiblement, cette agression a eu une grosse répercussion, enfin, de type un petit peu stress post-traumatique. Mais souvent, on fait pas tous un stress post-traumatique. Ce qui favorise le stress post-traumatique, c'est justement des antécédents d'expériences dans l'enfance qui sont passées inaperçues. Et j'imagine que le handicap mental du frère n'est pas arrivé. Enfin voilà.
Du jour au lendemain, il était déjà présent. Vous étiez inquiet pour la santé de votre frère quand vous étiez petit?
Oui, très inquiet en tout cas, j'avais été affecté et il n'est pas le seul parce qu'il y avait déjà un autre cas aussi qui s'est présenté dans la famille, la grande sœur, et puis c'était après à lui dans les années 98, voilà.
Ça veut dire
ça m'a affecté personnellement.
Et ça a commencé plus tôt en fait chez vous, cette inquiétude par rapport à la maladie mentale dans votre famille?
Oui, oui, ça a commencé très tôt, donc. Vivre ces états de leurs états dépressifs, leurs états psychotiques, ça a été très difficile pour moi.
Oui, je pense qu'en fait, par rapport à ce qu'on disait avec Eric tout à l'heure, il est plus facile d'éprouver de la compassion pour l'enfant qu'on a été que par rapport à l'adulte qu'on est. Voilà, là, par exemple, je pense que l'agression, à mon avis, a généré un très très fort stress parce qu'il y a eu un empilement antérieur de... Enfin, faut se mettre un petit peu à la place de Serge. Mais quand on est un tout petit garçon, avoir autour de soi frère, une sœur un petit peu imprévisible, pour peu qu'il n'y ait pas forcément de mots qui soient mis là-dessus, d'explications.
C'est générateur d'angoisse.
Voilà, ça peut être très angoissant, quel que soit, ça peut être nié par les parents, le handicap, ça peut être, au contraire, ils peuvent passer leur temps à s'occuper de la fratrie malade. Et dans les deux cas, de toute façon, ça crée des carences et ça crée du mal-être chez le petit. Donc, je pense que là, il serait intéressant de remonter plus loin à des expériences qui auraient l'air peut-être moins comme ça dramatiques, mais qui, à mon avis, contenaient déjà en germe la souffrance qui se manifeste là.
Serge, vous dites souffrir de dépression. C'est un diagnostic qui a été posé par un psychologue ou par un psychiatre?
Oui, c'est par un psychiatre. Donc, je suis suivi au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, au CNPP, par un psychiatre. Il avait posé le diagnostic de bouffée anxio-dépressive.
Donc, vous êtes prise en charge et ce médecin, vous le voyez régulièrement?
Oui, oui, je le vois tous les mois.
Et vous vous sentez apaisé, justement, après les consultations, dans le cadre de cette prise en charge?
Oui, oui, je suis apaisé. Je prends aussi quelques médicaments pour stabiliser mon nerf.
Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite bon courage, Serge, à Kinshasa. On disait tout à l'heure des questions qui concernent, bien sûr, les hommes, mais aussi les femmes. Et nous avons une auditrice en ligne. C'est Karine qui nous appelle de Dakar. Bonjour, Karine.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Karine. Si vous voulez vous rapprocher peut-être un petit peu de du haut-parleur, parce qu'on vous êtes un petit peu lointaine à l'écoute. On vous écoute.
D'accord. C'est mieux ?
Oui, c'est mieux. On vous écoute.
Ok, d'accord. Donc, en fait, moi, je voulais aussi un peu savoir comment je peux faire pratiquement, de toute manière pratique, pour dépasser des événements qui se sont passés dans le passé. Il y a eu, un abus émotionnel quand j'étais enfant. Il y a eu des séparations aussi, mais je me rends compte aujourd'hui et aussi des tentatives de viol. Mais je me rends compte aujourd'hui que chaque fait ou chaque événement de ma vie me rappelle un peu plus ce qui est passé et le sentiment de manque de confiance, d'angoisse, d'anxiété, les cauchemars que je fais la nuit, ça ne s'arrête pas. C'est vrai que je me suis fait entretenir par psychologue, mais je n'ai pas senti d'amélioration pendant un temps. Donc j'ai dû laisser la séance. Après, j'ai commencé à voir un psychiatre, m'a prescrit des médicaments, mais j'avoue que je n'ai pas pris des médicaments parce que j'ai plus peur des effets secondaires que j'avais déjà, les hallucinations, les cauchemars, les tentatives de suicide, qui étaient encore les effets secondaires de ces médicaments. Donc, voilà. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ou, voilà, des conseils.
Docteur Stéphanie Ahusso, donc ce témoignage de Karine, hein, passé très lourd, la volonté de s'en sortir, elle est allée voir des spécialistes, ça ne marche pas, dit-elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Donc là, voilà, ce que décrit Karine, c'est vraiment le stress post-traumatique, avec le fait qu'elle y repense souvent à ce viol et à toutes les agressions qu'elle a subies, les cauchemars, l'anxiété permanente, techniques, j'aime pas le mot, mais qui marchent par rapport à ça, c'est des techniques comme techniques de désensibilisation des souvenirs, c'est-à-dire essayer avec un psychologue ou un psychothérapeute formé, par exemple à des techniques comme le MDR, de revivre en visualisant le moment traumatique, en ressentant les sensations physiques, de manière à ce que cette énorme agression puisse se morceler en petits morceaux et ensuite cesse d'envahir un peu comme un abcès le cerveau et de libérer en permanence une forme de
pollution permanente.
Voilà, de pollution permanente, quoi. Mais c'est un travail dur et malheureusement, les médicaments, c'est une sorte d'emplâtre, ça va diminuer l'anxiété et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de pouvoir
reprendre
mais
de l'air.
Le vrai travail et il est compliqué, il faut qu'il y ait des thérapeutes formés, je sais pas s'il y en a dans le
Oui, à Dakar, il y en a. On va le voir dans quelques instants parce qu'on va justement avoir une thérapeute en ligne, donc on aura effectivement l'illustration.
Vraiment insister sur pas forcément, c'est un peu dur, mais pas forcément tourner autour du pot, c'est-à-dire on a souvent des scrupules à retourner voir le traumatisme quand on est thérapeute, parce qu'on a peur nous.
Faut
aussi.
Faut dire aussi que c'est ce que dit la famille, docteur Ahusso. Souvent dit arrête de remuer toujours la vase, la boue, etc. Mais des fois c'est nécessaire.
Oui, bah, là pour le coup c'est vraiment pouvoir revisualiser, comme je disais tout à l'heure, avec son cerveau d'adulte. Ressentir dans le corps toutes les sensations en essayant d'amener la respiration dans les endroits inconfortables de manière à stimuler le système parasympathique, celui qui va apaiser, qui va calmer, et en acceptant que ça décrive cette courbe de ça va faire très mal, ça va être très effrayant, on risque de pleurer, mais ensuite si on avance petit à petit, on va sortir du tunnel. Mais voilà, c'est comme je vous disais, plonger en quelque sorte dans le fait de revivre ça en essayant d'être beaucoup dans ses sensations physiques.
Docteur Stéphanie Ahusso, Karine, restez en ligne parce que on va prendre, restez à l'écoute en tout cas de l'émission, on va prendre en ligne Oumou Likane. Oumou Likane, bonjour. Vous êtes au Sénégal, justement. Vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann de Dakar. Vous venez peut-être d'entendre ce que nous a raconté Karine. Enfance difficile, tentative de viol, et aujourd'hui, malgré une prise en charge, l'impossibilité de se sentir mieux. Est-ce que vous avez des consultations de ce type? Et qu'est-ce que vous dites à des patients ou des patientes comme Karine?
Oui, c'est surtout, elle parle des médicaments, et je pense que les médicaments seuls ne peuvent pas résoudre le problème. Il faut une prise en charge psychologique, où elle peut, avec des entretiens, où elle peut s'exprimer, parler de sa souffrance et tout, et voir comment on peut élaborer ça jusqu'à ce qu'elle arrive à une étape de résilience qui lui permet quand même d'avoir la vie un peu plus libre dans sa tête et dans son corps et dans ses relations.
Oumoulikane, on connaît hein, le poids de la famille au Sénégal, en Afrique, partout dans le monde. Justement, oui. Quand on vient raconter son histoire, on a un petit peu peur d'abîmer l'image de ses parents, cette image qu'on veut garder peut-être parfois un petit peu plus jolie qu'elle n'a été en réalité. Est-ce que justement vos patients évoquent facilement leur passé, leur enfance pendant les consultations?
Non, parce qu'il faut les mettre en confiance. Moi, j'ai une petite stratégie. Ce que je leur dis, c'est voilà, nous travaillons sous le sceau de la confidentialité. Et si jamais vous entendez que j'ai répété votre histoire quelque part, si vous portez plainte, je vais en prison. Et là, les dossiers sont écrits, mais ils sont gardés sous clé et tout. Et personne ne peut y accéder que le professionnel qui est concerné.
Parce que vous nous confirmez, Oumoulikane, que pas mal de patients arrivent avec, malgré tout, un sentiment de honte, même si ce sont eux ou elles les victimes.
Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai suivi une jeune fille, qui était violée par son oncle, enfin le mari de sa mère, parce que les parents avaient divorcé ou le père était décédé. Elle est restée avec sa mère, elle s'est remariée, et sa fille était violée par son propre mari, mais bon, comme le monsieur était un grand monsieur, bon, c'était quelque chose tabou dont il ne fallait pas parler. Et lors des entretiens, elle nous a révélé qu'elle avait une tante paternelle, la sœur de son père, qui était dans un autre pays étranger. Alors, on a fait quand même des démarches. J'étais avec une autre collègue psychologue. Et on a fait des démarches quand même pour l'appeler au téléphone et tout. Lui proposer, parce que la fille disait, oui, si je vais là-bas, je vais avoir la paix. Mm-hmm. Donc, on a tout fait pour qu'elle parte. Elle est partie rejoindre sa tante dans ce pays-là.
C'est aussi trouver des réponses très concrètes hein, pour changer, pour sortir de ce piège.
Pour sortir de ce piège-là. Mais,
Docteur Ahussouf.
Ce qui est vraiment intéressant là, dans ce que dit, c'est que il y a, en fait, tant qu'on n'a pas nous revisité en ressentant tout ce qui a pu être terrible dans ce qu'on a pu vivre, on développe une sorte d'insensibilité à soi qui peut ensuite, comme par hasard, se transmettre à nos enfants. Qui, et on le remarque souvent dans les histoires, dans les biographies des gens, nos enfants revivent la même chose que ce qu'on a vécu si on n'a pas pris la mesure, nous, de la gravité de ce qu'on avait subi, quoi.
Et ça veut dire que se soigner soi-même, c'est aussi protéger avenir.
Oui, parce que si on est insensible à soi, on va reproduire ça avec ses enfants. Et c'est vrai que dans les facteurs de risque des séquelles de la maltraitance, il y a le refus, par exemple, de reconnaître comme tel des agressions sexuelles. C'est un gros facteur de risque dans les sociétés. Pareil pour l'hypersexualisation, pour la difficulté à reconnaître les inégalités hommes-femmes. Ça, ce sont des facteurs de risque.
Merci beaucoup. Je vais saluer Oumoulikane, hein, psychologue clinicienne à l'hôpital de Fann de Dakar. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais absolument vous lire un témoignage. On a eu tout à l'heure un auditeur en ligne. Justement, pour protéger sa famille, il ne veut pas parler pour ne pas qu'on le reconnaisse. Alors c'est moi qui vais en quelque sorte me charger de transmettre son message. Il s'appelle Amidou et il nous raconte « J'avais 14 ans lorsque l'un de mes oncles a abusé de moi. c'est un garçon qui a donc été abusé par son oncle. Ensuite, il m'a menacé de me tuer si je racontais cela à quelqu'un. Ça a duré pendant 2 ans. J'ai fini par quitter mon village, je suis allée à la capitale. Ma phobie a alors commencé. Je ne peux plus partager ma chambre avec quelqu'un. Donc Amidou a fait son chemin, il est biologiste en laboratoire. Et même quand il partage son bureau avec un homme ou avec quelqu'un d'autre qui est dans ce même local, eh bien il a peur, il ne peut pas rester seul ou dormir avec quelqu'un. Et quand il est avec une femme, eh bien c'est la même chose. Il a des hallucinations. Il dit que l'image de la femme avec laquelle je suis se transforme en la tête de mon oncle. Or, ce personnage, je peux dire ce sinistre personnage, eh bien il est toujours dans la famille. Quand il y va, il le croise, il ne peut rien dire. On lui dit même « Pourquoi est-ce que tu lui parles mal ?» Parce qu'il a une certaine notoriété dans sa famille. Et il vit avec tout ça. C'est un cauchemar. Il a 30 ans. Il voudrait oublier. C'est un témoignage absolument poignant, docteur Ahusseau. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Amidou a conscience du problème, mais quand il nous a parlé, il nous a dit, il a encore honte, honte de cet enfant, victime de cet oncle.
C'est très fréquent. C'est même presque un critère presque un critère diagnostique, quoi, dans le. Quand on nous a laissé en fait être abusé, et puis bon, pire, les parents sont pas omnipotents, ils peuvent pas forcément toujours protéger leurs enfants, mais si défaut de les protéger, au moins ils avaient réussi à accueillir toute la et de voir comme ça pouvait être une expérience effrayante et au moins prendre l'enfant dans ses bras et lui dire que c'était pas sa faute, etc. Mais quand il y a pas eu ça. Comme l'enfant est en train de se construire et que ces expériences-là sont les premières sont toutes neuves, quoi, sont en train de modeler son cerveau, il va en déduire que d'abord il mérite d'être agressé, qu'il mérite pas le respect, que c'est à peu près insignifiant vu que personne ne se mobilise, que de toute façon il faut rester dans une relation de soumission à l'autorité, fût-elle complètement pathologique
et
on
abusive.
Est quand même dans voilà, là c'est
dans
quand
le
même
crime.
Un crime, hein. Mais si tous ces mots-là n'ont jamais été entendus et si il y a jamais eu de véritable compassion et d'accueil de ce que ressentait la personne, ben ça perdure en soi. Et du coup, on continue de se voir comme ça, méritant la maltraitance. Et ça, il faut absolument considérer que ce sont des choses qui se sont passées de manière arbitraire et que l'enfant n'y était pour rien.
Mais ça veut dire déjà, quand on est capable de communiquer comme ça, de transmettre ce témoignage, c'est qu'on a fait un premier pas. Même nous qui avons mis sur le papier ce témoignage, ce passé très lourd, malgré tout, il y a ce poids de la famille, ce respect de la famille qui est imposé partout, dans toutes nos sociétés, et qui interdit, qui empêche d'avoir un regard objectif et critique sur le passé. C'est quand même terrible.
Bah, c'est le problème de... Je vais être un peu excessive, mais de l'insensibilité du monde. Ce que je disais tout à l'heure, la sensibilité, c'est vraiment une donnée médicale. Et tant que pour l'instant on considère que c'est de la gnognotte et que c'est un problème de journaux féminins et que c'est pas quelque chose d'intéressant, on perpétue des choses qui ont des conséquences non seulement chez l'individu, mais familialement, on vient de le voir avec ce que disait la psychologue tout à l'heure, et à l'échelle de la société, on poursuit une espèce de maltraitance aussi dans les inégalités, par exemple. Et pour moi, il s'agit vraiment d'un problème de santé publique qui a un coût, un surcoût énorme, et d'un problème sociétal, quoi. S'occuper des émotions, leur faire de la place, apprendre à être accueillant avec ces émotions, les reconnaître, ne serait-ce que reconnaître leur existence, ça me paraît être un fondamental qui pour l'instant n'est instauré à peu près dans aucune société, quoi.
Ce qu'on peut dire à Amidou, c'est notre conclusion, c'est déjà d'aller voir quelqu'un, d'en parler, parce que résoudre une telle chose, un tel fardeau soi-même, ça paraît impossible. En tout cas, qu'il se détache de cette culpabilité, parce qu'on n'a pas dit le mot, mais c'est bien ça. Il est coupable de ces sévices qu'il a subis encore quand il était petit.
Oui. Alors après, c'est vrai que dans les chiffres, hein, les antécédents de maltraitance, c'est le facteur pronostique le plus prédictif de la santé à l'âge de 55 ans. De la santé physique et psychologique. 17% des professionnels de santé pensent à poser la question. Ce qui est vraiment minuscule, quoi. Et dernier chiffre, il y a dans 40% des cas une révélation spontanée, mais c'est pas suffisant. On c'est pas juste exprimer. Alors il faut déjà exprimer à quelqu'un de bienveillant, et il faut aussi ressentir et revisualiser pour que ça, que le cerveau adulte puisse redigérer différemment,
tirer
de nouvelles
sens.
Conclusions. Voilà.
Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir participé à Priorité Santé, docteur Stéphanie Ayusso. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute. On rappelle le titre de ce livre avec donc des façons d'approcher ces problèmes, mais aussi de les résoudre. Comment ne plus subir, se déconditionner de son passé, publié chez Odile Jacob. On parle santé et sexualité tout de suite dans Priorité Santé. C'est bien sûr avec vous, docteur Catherine Solano, sexologue. Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, nous avons en ligne un auditeur, c'est Germain, il appelle de Kisangani en République démocratique du Congo. Bonjour Germain.
Bonjour Caroline, bonjour Catherine Solano.
Bonjour Germain.
On écoute votre question, Germain.
Ma question est la suivante. Un jeune homme qui n'a jamais fait un rapport sexuel, est-ce qu'il aura des troubles sexuels en cas de son premier rapport sexuel?
Un conseil ou des conseils, bien sûr, docteur Catherine Solano, pour le premier rapport sexuel pour un jeune homme.
Voilà, alors le premier rapport sexuel, la difficulté, c'est simple, c'est le stress. C'est la première fois pour tout, on stresse. La première fois qu'on conduit une voiture, la première fois qu'on fait l'amour, c'est plus compliqué qu'une voiture, une femme, hein, donc c'est pas facile. Donc la première chose, mais vraiment je pense que c'est la plus importante de toutes, c'est qu'il faut choisir la bonne partenaire pour la première fois. Parce que si vous choisissez quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte et qui vous désire, ça a des grandes chances de bien se passer, même si vous êtes débutants tous les deux, même si c'est pas parfait, parce qu'une première fois, on est rarement au top de ce qu'on pourrait arriver un peu plus tard. En revanche, quand c'est ce qu'on appelle un coup d'un soir, hein, quelqu'un qui s'en fiche un peu de vous, ça peut être une catastrophe. Et moi, je peux vous le dire que j'en ai l'expérience parmi mes patients. Il y a très souvent, quand c'est quelqu'un qui vous connaît pas beaucoup et qui n'a pas d'atome crochu spécial ni d'amour pour vous, il y a des fois des moqueries, par exemple sur votre sexe ou votre manière de faire l'amour, la remarque désagréable. Et alors, c'est très grave la première fois parce qu'une première fois, ça laisse des empreintes, on appelle ça. Ça marque beaucoup plus. Alors bien sûr, la millième fois où vous faites l'amour avec votre femme, elle peut vous dire « c'était pas terrible aujourd'hui », ça vous traumatisera pas parce qu'il y en a eu 999 avant. Quand c'est la toute première, moi je connais des jeunes hommes qui ont été bloqués pendant des années après leur première fois. Donc choisissez bien votre partenaire. Ensuite, il faut pas mettre la barre trop haut. Si vous vous dites « je dois être le meilleur amant qu'elle puisse imaginer la première fois », là, vous aurez tout faux parce que ça sera peut-être pas le cas. On peut pas tout savoir et tout le monde doit débuter un jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent merveilleux quand même parce que la première fois, vous avez la joie de la découverte, toutes les émotions d'émerveillement, de découvrir votre ami, de découvrir les sensations, et ça compense beaucoup de maladresse. Et puis, un petit conseil qui aide beaucoup de choses, c'est dites à votre partenaire la première fois qu'elle est belle. Ça paraît tout bête, mais ça va la mettre en confiance parce que figurez-vous qu'elle aussi, elle est stressée. Et puis, un conseil vraiment pratique aussi. Par exemple, vous avez une copine, vous la tenez par la main, vous vous dites un de ces jours, on va peut-être faire l'amour. Si vous vous dites, bon, on prend rendez-vous, on va le faire tel jour à telle heure, ça risque de pas être très réussi.
Ça va mettre une pression.
Ça va mettre une pression et puis vous allez passer de presque rien à tout. Et donc, c'est beaucoup mieux quand on y va petit à petit, qu'on prend le temps. Donc, on prend le temps d'apprendre à s'embrasser, à se faire des caresses. Peut-être au début, comme on dit, au-dessus de la ceinture, parce qu'il n'y a pas trop de risques. Après, même en dessous, mais sans pour autant faire l'amour encore. Et petit à petit, on se sent bien plus à l'aise avec le corps de l'autre et avec nos émotions. Et puis, quand on est prêts tous les deux, on le fait. C'est-à-dire de pas passer de rien à tout en une fois. Et puis, un conseil, c'est de vous occuper de la contraception. Parce qu'un bébé, ça se fait à deux. Quand on n'en veut pas, ça se fait à deux aussi. Donc, c'est pas la femme de s'occuper toute seule de la contraception. Donc, si vous avez une amie, vous lui dites, écoute, comme on se connaît, on redevient de plus en plus intime, faudrait qu'on s'occupe de la contraception. Vous allez avec elle chez le médecin ou dans un centre de planification. Vous lui proposez d'acheter des préservatifs. Et là, elle va se dire, ça, c'est un homme qui me respecte. C'est quelqu'un qui est bien. Et elle sera d'autant plus heureuse avec vous dans la sexualité. Puis vous pouvez aussi lui dire, bah peut-être que pour elle c'est sa première fois aussi. En tout cas, si c'est sa première fois à elle, lui dire, écoute, si ça te fait mal, on arrête tout de suite. Surtout dis-moi, moi je veux que ça soit bien pour toi. Et comme ça, ça devrait se passer bien.
Voilà Germain pour cette réponse du docteur Catherine Solano. Votre deuxième question, on l'écoute tout de suite.
Ma deuxième question est la suivante. En cas d'une femme qui est dessus et déprimée, mmh. et qui a passé un beau temps sans faire les rapports sexuels, mmh. est-ce qu'il va présenter des troubles du désir sexuel?
Alors, c'est l'action en fait de la dépression sur le désir des femmes.
Alors, quand une femme est déprimée et en dépression, ou quand un homme est en dépression, ça a tendance à bloquer le désir sexuel. Et d'ailleurs, les antidépresseurs eux-mêmes, donc les médicaments qu'on donne dans la dépression, ont aussi tendance à bloquer le désir sexuel. Donc, si une femme est en pleine dépression, c'est sûr qu'elle risque de ne pas avoir spécialement de désir sexuel. En revanche, on sait que quand la dépression se guérit, le désir sexuel revient, il revient souvent en dernier, l'énergie revient souvent avant le désir sexuel. Donc, faut être un petit peu patient. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut quand même prendre les antidépresseurs parce que ça aide à se remonter plus vite de la dépression, même si sur le moment, ils sont pas très bons. D'autre part, ça vaut le coup, je dirais pas de se forcer, hein, surtout pas, ou de forcer une femme, mais de la motiver, de lui dire, écoute, je sais que t'as pas très envie. Au début, ça va peut-être pas être très agréable, mais si tu sens pas vraiment un blocage, l'appétit vient en mangeant, comme on disait. Donc, si elle a envie de retrouver une vie sexuelle, mais qu'elle n'a pas de désir, ça vaut le coup qu'elle se motive un petit peu. Et puis, elle va retrouver des sensations agréables. Rien que le fait d'être contre l'autre nu et toutes les sensations, eh bien, ça reviendra plus facilement.
Voilà pour cette réponse, Germain. Excellente journée à vous, à Kisangani. Docteur Catherine Solano, on a aussi une question Facebook. Une question de Rico qui explique qu'en tant qu'homme, il est honteux parce qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle. Il dit qu'il est puceau, il a 28 ans et il a peur en fait de la réaction de sa future partenaire quand elle va apprendre qu'il est vierge. Il explique, ça me bloque pour les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, ce que je peux lui dire, c'est que c'est pas une honte de vivre sa première fois. On passe tous par là, hein. C'est un jour ou l'autre. Donc, il y a aucune honte à avoir. Et c'est sans doute peut-être parce qu'il est un peu timide, qu'il n'a pas encore été jusqu'au bout. Et ce que je lui conseille, à Rico, c'est de transformer sa honte en atout, c'est-à-dire en quelque chose de positif. Et je vais dire, écoutez bien Rico, si vous êtes à nous écouter, voilà ce que vous allez dire à votre petite amie. Vous allez lui dire, tu sais, tu es la première femme avec qui je vais faire l'amour. Parce que pour moi, j'ai toujours pensé que je ne le ferais qu'avec une femme qui en vaut vraiment la peine. Moi, j'avais pas envie de coucher avec n'importe qui, c'est pour ça que j'ai attendu. Et donc, si vous lui dites ça, ça sera très valorisant pour cette femme. Et en plus, elle aura beaucoup moins peur que vous soyez, bon, ce qu'on appelle souvent chez moi, un gros macho, vous voyez. Donc, elle sera ravie de vous apprendre ce qu'elle sait, si pour elle, c'est pas sa première fois. Et donc, surtout, il faut pas avoir de honte, parce que ce qui fait qu'un rapport sexuel est merveilleux, c'est pas tellement la technique, c'est beaucoup plus les émotions et l'amour, vous voyez, que la technique. Donc, lancez-vous.
Voilà, docteur Catherine Solano, merci beaucoup. Hein. Et si vous, à l'écoute de Priorité Santé, vous voulez poser d'autres questions au docteur Solano, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, vous laissez votre numéro de téléphone, on vous rappelle ou on pose tout simplement cette question Facebook. À très bientôt. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Baptiste Malignet, Didier Bleu, aujourd'hui Arès Siradag. Demain dans Priorité Santé, journée mondiale de la dépénalisation de l'avortement. Ces textes de loi qui ont un impact direct sur la santé des femmes. On se retrouve demain.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier,